Je vais lire le texte de l'épître de Paul aux Romains. On arrive dans la dernière partie des quatre messages intitulés L'Empire du péché. Et le titre d'aujourd'hui, c'est L'Écriture constate que tous les hommes sont sous le péché. Et on va voir tout ça aujourd'hui. Alors, Romains chapitre 3, je vais lire versets 9 à 20. Donc c'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Rome. On est à peu près à l'an 67. Et un peu plus tôt, on est plus tôt que ça. Dans entre 50 et 60. Et Paul écrit, désire aller voir les Romains, l'église de Rome, mais il n'a pas pu. Alors il leur écrit une lettre pour leur expliquer ses convictions, pour leur expliquer l'évangile. Et c'est une lettre qui nous est parvenue. Chapitre 3, verset 9. Quoi donc ? Sommes-nous supérieurs ? Pas en tout point. Ou, selon d'autres versions, nullement. Car nous avons déjà porté cette accusation, tous, juifs et grecs, c'est-à-dire tous les non-juifs, sont sous le péché, ainsi qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a pas un qui soit intelligent, il n'y a pas un qui recherche Dieu. Tous se sont égarés ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a pas un qui fasse le bien, il n'y en a pas même un seul. Ça, c'est un extrait du psaume 14, versets 1 à 3, ou 53, versets 1 à 3. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils rusent avec leur langue. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspi. Extrait des psaumes 5, verset 10, et psaume 140, verset 4. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ça, c'est le psaume 10. Verset 15. Ils ont les pieds agiles pour répandre le sable. La destruction et le malheur sont sur leur chemin. Ils n'ont jamais connu le chemin de la paix. Prophète Ésaïe 59. Il n'y a pas de crainte de Dieu devant leurs yeux. Psaume 36, verset 2. Ainsi qu'il est écrit. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit coupable devant Dieu. Personne, en effet, ne sera justifié devant lui en vertu des œuvres de la loi, car ce qui advient au moyen de la loi, c'est la connaissance du péché. Verset 21. Mais maintenant, en dehors de la loi, la justice de Dieu, attestée par la loi et les prophètes, s'est manifestée. Justice de Dieu par la foi de Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, car il n'y a pas de distinction. On verra un petit peu ça de loin, la suite du texte. Alors, vous avez vu comment Paul écrit, il dit, nous avons déjà porté cette accusation, nous avons déjà démontré que... On est un peu dans un tribunal, là, hein, dans ce passage. Et qu'est-ce que Paul a déjà montré ? Ben, il a montré que le monde entier est sous l'empire du péché, sous le comme quelque chose qui appuie sur lui, comme ça, qui l'oppresse et qui le maintient prisonnier. Il a premièrement constaté que tous ceux qui vivent sans Dieu l'offensent et pêchent. Pourquoi ? Parce que le témoignage de la création n'est pas pris en compte. Un grand nombre d'hommes vit sans tenir compte de Dieu. Chacun vit pour sa passion. Chacun a des défauts, mais finalement, ça n'accommode, voire les approuve. On a vu également, tous ceux qui ont une morale ou une religion de surface offensent Dieu et péchent. Parce que la patience de Dieu n'est pas prise en compte. Une foule de personnes pratique à petite échelle ce qu'elle condamne à grande échelle. Elle porte des jugements sur ses semblables tout en étant elle-même coupable. Et c'est facile de faire des projections de cette constatation-là. Un jour, Dieu jugera le monde et ce jour-là, tout sera mis à découvert. On a vu également ce qui concerne le peuple juif. L'appartenance au peuple juif ne sauve pas si on pêche. Or, les juifs pêchent. Le peuple élu auquel Dieu s'est révélé connaît la loi de Dieu, mais il pêche. Il se voit supérieur aux dieux aux autres par ses privilèges. Et il pense qu'il sera sauvé seulement parce que il connaît la volonté de Dieu, même s'il ne remplit pas tout à fait ses exigences, mais il se trompe. Si on n'accomplit pas la loi de Dieu, eh bien, on est pécheur et à ce titre, on mérite d'être jugé. Paul a démontré que les hommes, dans leur ensemble, sont de près ou de loin des transgresseurs de la justice divine. Les lois de Dieu sont, c'est vrai, écrites dans la Bible, mais également dans le cœur de tous ceux qui ne connaissent pas la Bible. Et ces lois sont applicables. Et il a pris toujours des exemples de personnes qui réussissaient là où d'autres ont échoué. Et les hommes ont construit toutes sortes de raisonnements bidons pour se défendre. C'est un passage qu'on n'a pas, que j'ai mis sur le groupe de WhatsApp. Se trouver des raisonnements pour se défendre en accusant Dieu. C'est la faute de Dieu qui n'est pas fidèle. Ou bien il se sert de les fautes qu'on fait pour se mettre en relief, en avant. Bref, Dieu lui-même ne serait pas aussi saint qu'il le prétend. Tout ceci, bien sûr, pour Paul, et en vérité, n'est absolument pas recevable. Dieu est parfaitement juste et l'humanité est inexcusable. Et là, Paul veut enfoncer le clou en faisant paraître à la barre l'Écriture. L'Écriture va être un témoin contre nous ce matin. Le problème de l'homme, déclare l'Écriture, c'est le péché. C'est le péché. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Alors, est-ce que nous allons souscrire à ce constat ce matin ou pas? Ça va être un petit peu le défi. Dans les premiers versets de 11 à 12, Paul, l'Écriture, pardon, disent que le péché a perverti la tête. Je dis la tête de l'homme, enfin tout ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau, tout ce qui fait notre raisonnement, nos connaissances, la façon dont on prend des décisions, etc. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, il n'y en a pas un qui soit intelligent. Les hommes ne sont pas intelligents dans le sens qu'ils ne cherchent pas Dieu. Ils ne cherchent pas à s'éloigner du mal. C'est ce que constatait Job 28-28. Hein. Ne cherche pas à s'éloigner du mal. Hier, j'ai été voir mes parents. Ils étaient visités par un monsieur âgé qui était tout content de venir discuter avec eux. Mais il n'avait pas de masque. Et moi, je vais le masque. Et je lui ai fait remarquer dans la conversation que les Français, ils préféraient être confinés que ne pas porter le masque. Que de porter le masque. Et ils ont constaté ça, oui. On aime bien se mettre au bord du chemin. On aime bien marcher au bord du précipice.
On aime bien tenter Dieu, aller à la limite de ce qui est permis. Voilà, c'est là où on se trouve des fois bien. On est content quand on a défié un petit peu le danger. Les hommes ne sont pas intelligents dans ce sens-là. Ils ne cherchent pas Dieu. Il y a beaucoup de gens sympathiques et très gentils. Moi, je suis admiratif des personnes qui m'entourent. Je les trouve tellement bien. Et pour beaucoup d'entre elles, je ne me lasse pas de leur présence. Mais le fait de constater qu'ils ne cherchent pas Dieu. Et pourtant, Morel l'a rappelé tout à l'heure, Dieu est accessible. Celui qui cherche trouve. On ouvre à celui qui frappe. Et pourquoi ne cherche-t-on pas Dieu? Ben, sans doute par peur de le trouver, justement. Par peur de le rencontrer et qu'il ne nous dise quelque chose qu'il faut changer dans nos vies. Dans le jardin d'Adam, Adam et Ève, après que Adam ait péché, il s'est caché. Et Dieu lui a dit, où es-tu? Bien sûr, Dieu savait parfaitement où est Adam. Vous savez, les enfants, des fois, hop, ils mettent les mains devant les yeux et ça y est. Ils sont cachés, on ne les voit pas. Mais c'est pas comme ça que cela se passe, évidemment. Évidemment. Égaré. Les hommes sont tous égarés. Ils se sont égarés. C'est l'idée ici de s'éloigner jusqu'à se perdre. Je vais utiliser une anecdote. Quand Fallon était petite, c'est ma mère qui m'a rappelé ça l'autre jour. J'ai complètement oublié. Elle était à un supermarché avec sa mamie. Et puis à un moment donné, ma mamie se retourne et plus de Fallon. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Et alors, mamie, oh là là, comment je vais faire maintenant? Grand supermarché de Decazeville. Et alors, elle a été à l'accueil. Et à l'accueil, on a fait ce message. Voilà, que la petite Fallon se rende à la porte d'entrée. Sa mamie l'attendait. Et sauf que Fallon attendait à une porte et mamie à une autre. Et voilà un petit peu la situation que nous sommes, nous autres les grands, égarés, éloignés de Dieu, on s'est perdu. On s'est perdu, on ne sait plus comment faire, plus vers qui se tourner, on est perdu. Tous ensemble, égarés, tous ensemble pervertis. C'est le sens de plus être utilisable, de plus être bon. Quand on était en Afrique, on a passé un temps là-bas avec Jackie, on allait pendant les vacances faire une construction d'une maison. Et il y avait un maçon qui s'appelait Agbé. Il avait plein d'apprentis avec lui. Ils étaient 8, 9 apprentis et puis lui, c'était le chef, quoi, qui apprenait aux apprentis. En même temps, il les faisait travailler. Et les murs qu'il construisait n'étaient pas droits. Mais je voyais le mur de la maison, je lui dis, Agbé, le mur est pas droit, ça se voit. Et lui me soutenait, non, 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 le mur est droit, je t'assure, le mur est droit. Mais comment tu vois que le mur est droit? Et puis il m'a sorti son niveau. Il avait un beau niveau jaune, je me rappelle. Et il l'a mis contre le mur comme ça. Tu vois la bulle? Elle est là. Elle indique que le mur est droit. Et j'ai pris le niveau, je l'ai ramassé dans l'autre sens, et puis là, la bulle était complètement perdue dans l'autre sens, passée dans l'autre sens. Mais Agbé, ton niveau n'est pas juste. Comment, avec un niveau qui n'est pas juste, tu veux monter un mur droit? Et le problème des hommes, c'est que personne n'a de niveau juste pour monter le mur de sa vie. On a des niveaux en mesure, mais les niveaux sont faussés. Et on est dans ce sens-là, perverti, on ne peut pas y arriver. Parce qu'on est, faussé, on n'est pas quelque chose qui n'est pas utilisable. Il n'y en a pas un qui fasse le bien. Avez-vous déjà rencontrer des hommes politiques qui arrivent à faire le bien. Ils défilent. Quand ils restent en place, c'est encore au pire. Pourtant, ce sont des gens qui ont fréquenté les meilleures écoles, des premiers de la classe, des gens qui sont vraiment très, très doués et qui ont plein de qualités, mais force est de constater que il faut en changer souvent, on cherche sans arrêt celui qui va être compétent pour mener les affaires du pays. Dans mon travail, j'ai fait une formation un jour de management, c'était. Et le formateur nous a dit, vous savez, les bons managers, ceux qui sont vraiment doués, ils prennent 20% de bonnes décisions et 80% ils se trompent. Ça, c'est les meilleurs. Et on a tous dit, ah, c'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Quand on regarde le recul du temps, les décisions, l'immense majorité n'étaient pas les bonnes. Et ceux qui ont réussi dans quelques domaines, ceux-là sont des bons managers. Que le monde serait beau si les hommes savaient faire le bien. Que le monde serait beau si les hommes savaient faire le bien. Mais force est de constater, il n'y en a pas un qui fasse le bien. Pas même un seul. Un deuxième groupe de constats qui accusent les hommes, c'est la langue, c'est le gosier, c'est la bouche, c'est les paroles qu'on dit. Alors, si vous connaissez la Bible, vous connaissez l'épître de Jacques, qui aime souligner tout cela de façon très prononcée. Et si vous n'avez jamais lu le livre des Proverbes, il y a une majorité de proverbes qui touchent la façon dont on doit s'exprimer. Et là, que lisons-nous ? Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils rusent avec leur langue. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Alors, est-ce que vous avez déjà vu des caveaux ouverts ? Malheureusement, on voit des caveaux ouverts quand il y a des enterrements où on est obligé d'ouvrir le caveau pour pouvoir placer le nouveau cercueil dedans. Et la Bible dit, quand on ouvre notre bouche, voilà, un caveau qui s'ouvre. Les caveaux doivent normalement être fermés. On est d'accord. Mais quand on ouvre notre bouche, leur gosier ressemble à un sépulcre, un caveau, une tombe ouverte. Ils rusent avec leur langue. Alors la ruse, la tromperie, la dissimulation dans les paroles, c'est monnaie courante. Quelque chose qui m'avait frappé dans les aéroports. À un moment, dans mon travail, je voyageais beaucoup. Et dans les aéroports, ben on attend, là, il y a les queues pour passer au contrôle, tout ça. Si vous avez pris l'avion une fois, vous savez comment ça se passe. Et là, tout à coup, il y a une dame qui est sortie du rang et qui est partie. Elle était très en colère. Hein, et elle disait, salaud, salaud, salaud. Et il y avait un homme là qui était visiblement son mari et qui avait un bon costume, une belle cravate, qui était très bien habillé. Et qui était là, qui faisait quelques pas vers elle, qui la regardait partir. Vous saviez, on savait qui était coupable et qui était innocent. On savait que cet homme avait fait une faute grave. Il n'y avait pas besoin de tribunal, rien qu'au son de la voix de cette dame. C'était une scène qui m'a marqué, dont je me souviens encore. Tricheur, tromperie, dissimulation, ruse. Dans mon travail, on fait des négociations commerciales. C'est une... Je ne sais pas comment décrire ça, mais... Les personnes doivent être le plus honnêtes possible, mais pourtant, il y a toujours des choses qui sont dissimulées, il y a toujours des choses qui sont cachées, et aux côtés de l'acheteur, et aux côtés du vendeur. On essaye de pas tromper, on essaye de pas être rusé, mais voilà, il faut gagner l'affaire. Ne leur jetons pas la pierre. Est-ce que vous avez un jour voulu passer un entretien d'embauche? Ben, on est là, on se présente, et ce jour-là, on se vend soi-même. Et bien sûr, on va mettre en avant ce qu'il y en a de meilleur et cacher tous nos points de faiblesse dans le travail. Et on le fait, on trouve ça normal de le faire, et pourtant, la ruse, la tromperie, la dissimulation. Le fonds de commerce des séries télévisées que nous avons, là, il y en a, après, bon, il y en a quelques-unes à la télé, pareil, il y en a d'autres dans d'autres trucs, Netflix, tout ça. Mais le fonds de commerce de tout ça, c'est la ruse, la tromperie, la dissimulation. Il y en a toujours qui cachent des choses qu'on voudrait savoir, et qui est le coupable, et qui a dit ci, et dit ça, et des sacs de nœuds pas possibles. Et voilà, c'est un fonds de commerce pour la production artistique. Ils rusent avec leur langue. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Alors, on peut penser aux vipères, bien sûr. On a la vipère qui s'appelle la vipère aspic chez nous. Alors, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin. C'est une... La vipère, bon, vous savez, c'est dangereux. Hein, ça a la tête rectangulaire, comme ça. Ça a des écailles. Généralement, c'est noir. Enfin, plutôt sombre. Avec une grosse tête. Et à l'intérieur de leur palais, il y a deux grands crocs. Énormes, des crochets énormes. Et quand elles ouvrent leur bouche grand comme ça, chut, les crocs, ils surgissent, ils sortent de leur bouche, et là, il y a la pompe à venin derrière. Et quand ils vont mordre, la vipère va mordre sa proie, ou va mordre celui qui vient l'agresser, et elle va planter profondément ses deux crocs dans la chair de la victime et injecter son venin. Ça peut être également le cobra. Les cobras, eux, ils ont des petites dents qui sont pas escamotables comme la vipère, mais ils ont, pour certains d'entre eux, la possibilité de cracher du venin à distance. Et à 2 mètres de distance, ils arrivent à cracher le venin, ils visent les yeux, et ils visent leur victime et ils leur crachent le venin dans les yeux pour les rendre aveugles et pour pouvoir se saisir d'eux. Alors, qui n'a pas jamais été blessé par des paroles, qui n'a jamais reçu des paroles blessantes au visage, et qui n'a pas répondu de la même manière en renvoyant une parole blessante. Les disputes ressemblent souvent à des combats de serpents. Et le but, c'est vraiment de trouver des paroles qui vont faire du mal à la personne en face. C'est vraiment l'objectif. C'est terrible. Pourquoi? Ouais, pourquoi? Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ça, c'est terrible du psaume 10, le terrible psaume 10 qu'on avait parcouru ensemble pendant l'été. Il est terrible, ce psaume, de la façon dont il décrit le méchant. Vous avez déjà eu la bouche pleine, des fois, ça... Vous savez, des fois, quand on est enfant, même on remplit la bouche tellement c'est bon, et puis on a la bouche pleine. Et si on veut parler à ce moment-là, il y a tout qui ressort. Voilà. la bouche pleine d'amertume, la bouche pleine de malédiction. Qu'est-ce que c'est la malédiction? C'est souhaiter le mal à une personne. Souhaiter vraiment, je te demande au Seigneur de lui faire du mal, de la punir, fais-lui du mal, frappe-la. Une malédiction sur quelqu'un. Et notre cœur, il sait produire ça très bien. Et l'amertume, les paroles amères, c'est des paroles qui ne sont pas agréables à entendre pour les autres. C'est comme la nourriture amère. On n'a pas envie d'entendre ça. Et pourtant, des fois, ça sort. Le groupe suivant de versets, le péché a perverti leur voix. Ils ont les pieds agiles pour répandre le sang. Ils ont le pied agile pour répandre le sang. Dans l'Orient ancien, lorsqu'il y avait il n'y avait pas de justice comme nous, et lorsque quelqu'un avait connu un meurtre, dans la famille de la victime se levait le vengeur de sang. Et c'est cet homme qui devait rendre la justice. Et c'était œil pour œil, dent pour dent, le sang a coulé, il a fait couler le sang, son sang doit couler. Et le vengeur de sang poursuivait le meurtrier partout, jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé, jusqu'à ce qu'il l'ait tué. Et on a cette image des pieds agiles pour répandre le sang. Bon là, on a une forme chez nous, hein, la bandetta. Vous savez ce que c'est, hein, dans les pays du Sud. C'est un petit peu ça aussi. Parfois, les hommes se livrent à des génocides, des folies meurtrières. On ne sait pas ce qui leur passe par la tête. Et eux-mêmes ne savent, après, ils ne réalisent même, mais qu'est-ce que j'ai fait? Une sorte de folie collective où on va courir partout pour aller tuer son prochain. Il y a une ethnie qu'il faut exterminer, où il y a, voilà, il faut aller tuer, il faut tuer. C'est une folie meurtrière qui, en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois, peut exterminer des peuples entiers. Mais pourquoi? Et quand tout ça est fini, les personnes qui ont été les criminels, mais ils ne se reconnaissent pas. Mais comment moi, j'ai été capable de faire quelque chose comme ça? Ils sont les pieds agiles pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur chemin. Alors nous, j'ai une illustration qui est locale, qui est bien triste. Hein. Pendant la dernière guerre, en 1944, la région s'en souvient bien, la division SS, la Das Reich, qui était basée à Montauban, est montée en Normandie. C'était des SS, des gens aguerris. Ah. Et on a suivi leur parcours par le sang qui ont jonché leur chemin. Ils se sont arrêtés à Figeac. Ils ont détourné ils ont envoyé des centaines de personnes en déportation. Mais ils ont fait bien pire. À Tulle, à Oradour-sur-Glane, ils ont massacré des innocents. Déportation, exécution, torture, massacre d'innocents ont jonché le chemin de cette division jusqu'à Normandie. La destruction et le malheur sont sur leur chemin. Prendre le temps de regarder un petit peu notre 20e siècle. Il y a des gens qui ont fait une exposition. Et le titre de l'exposition, c'était « De quoi sont morts les gens au 20e siècle ?» Et ils ont, je ne sais pas trop comment, ils ont rassemblé des données. Et voilà un petit peu le fruit de leur travail. Il y avait un grand panneau de... Il faut que je branche. De 2 mètres de haut sur 6 mètres de large. où l'on trouvait ceci. Alors ça représente tous les morts, là, les gros groupes ici. Comment ça se divise? Alors je ne sais pas si vous y voyez bien. Là, si c'est les morts par le cancer, là c'est les morts, donc 530 millions, les morts par les maladies infectieuses, 1680 millions, les morts par des maladies qui ne sont pas infectieuses, qui ne se communiquent pas, 1 milliard 970 000. Le 20e siècle, de 1900 à 2000, pendant 100 ans. Et là, au milieu, là, 980 millions de personnes qui sont mortes. Ça fait, j'ai compté, ça fait une personne sur cinq qui est morte de façon par intervention humaine. Alors, il y a les guerres, 131 millions de personnes. Il y a la consommation de drogue, en particulier le tabac, qui a tué 115 millions de personnes. Les problèmes de pollution, 116 millions. Les meurtres, 170 millions de personnes. Autant de suicides pratiquement que d'homicides. L'idéologie, 142 millions de personnes qui ont succombé suite à des idéologies. Cela fait une personne sur cinq, et bien sûr on ne compte pas là-dedans les avortements. C'est encore un autre sujet. En France, aujourd'hui il y a un avortement pour trois naissances, il y a un avortement pour trois naissances. Et je crois qu'au niveau planétaire c'est un pour cinq, quelque chose comme ça. Ça ne rentre pas dans cette comptabilité-là. La destruction et le malheur sont sur leur chemin. Ils n'ont jamais connu le chemin de la paix, constate l'Écriture. Ils n'ont jamais connu le chemin de la paix. Parfois dans les couples, cela fonctionne bien. Et gloire à Dieu merci pour tous les couples qui marchent bien. Mais parfois cela ne marche pas bien. Et invariablement, le chemin qui est emprunté, c'est le chemin de la guerre. Ils ne voient pas d'autre issue possible que le conflit et l'autodestruction. Une vie de bonheur peut être détruite en quelques jours, ou même quelques heures seulement. Il n'y a que le chemin de la guerre. Le chemin de la paix est inconnu. L'autre alternative. Et peut-être des fois ils vont faire appel à des conseillers conjugaux qui vont leur faire voir les choses différemment. Mais la première solution, c'est le chemin de la guerre. Ils n'ont jamais connu le chemin de la paix. Alors Paul conclut. Il n'y a pas de crainte de Dieu devant leurs yeux. C'est triste. La crainte de Dieu, il y en a deux composantes. Il y a la crainte de Dieu comme on respecte son père quand on est enfant. Et puis il y a la crainte de Dieu dans le sens de c'est lui qui administre les corrections. C'est lui qui donne... le père, c'est lui qui va, comme on dit, châtier, voilà, tirer les oreilles. Et le jugement même n'effraie pas les hommes. Le fait qu'un jour, il comparaisse en jugement, tous les hommes sont sous le péché. Alors, qu'est-ce qui est particulier dans ces passages tirés des Écritures, ils ont quelque chose de particulier par rapport à tout ce que a développé Paul avant. Avant, oulala, faut que j'accélère. Avant, il a développé la relation avec Dieu. Celui qui était offensé, c'était Dieu. Mais là, dans les passages qu'on a vus, il y a des victimes. Il y a des innocents qui vont recevoir les coups, qui vont recevoir les paroles, qui vont être blessés d'une manière ou d'une autre. Il y a des innocents. Il y a des personnes qui, peut-être elles sont enfants et elles vont grandir, ou peut-être elles sont plus grandes et elles vont, à leur tour, rendre l'appareil, restituer ce qu'elles ont reçu. Et toutes sortes de problèmes dans notre société, c'est comme un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. Dans les psaumes, il y a cette particularité que Dieu défend toujours l'innocent. Il est celui qui défend l'innocent. Vous pouvez regarder ça si vous voulez. C'est la particularité un petit peu de ces passages-là. C'est que là, Paul, la parole de Dieu introduit la notion de... On pêche contre Dieu premièrement, mais aussi on pêche contre nos semblables et on leur fait du tort. Qu'en est-il des chrétiens ? Personne en effet. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit coupable devant Dieu. Personne ne sera justifié devant lui en vertu des œuvres de la loi, car c'est ce qui advient au moyen de la loi, c'est la connaissance du péché. Qu'en est-il des chrétiens ? Nous ne sommes pas sous la loi, mais nous le connaissons, la loi. Jésus a dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Et ça ne va pas vous heurter si je vous dis que en tant qu'enfant de Dieu, on se retrouve bien souvent épinglé par la parole de Dieu. Sommes-nous plus excellents ? Est-ce que le « nous » parle des Juifs ? Est-ce que le « nous » parle des chrétiens ? Le péché est péché pour tout le monde. Plus la connaissance de Jésus et de sa volonté augmente, plus les petits péchés deviennent énormes et insupportables. Finalement, en tant que chrétien, bien souvent on se retrouve avec les autres. À la fin du chapitre 3, verset 20, oui, on a un problème avec le péché. Quels sont nos besoins et quelle est la solution de Dieu? Quel est le besoin du pécheur? Il y a trois besoins, moi je les classé en trois. On a besoin de pardon. On a besoin d'être pardonné. On a besoin que notre culpabilité soit enlevée. On en a besoin. On a besoin également que justice soit rendue parce que l'innocent... Non seulement Dieu, mais l'innocent a été blessé, on a peut-être nous-mêmes été blessés. La justice doit être rendue. On a besoin que la justice soit rendue. On ne peut pas connaître de repos sans savoir que la justice est rendue. Et on a besoin d'être délivré du péché qui cause tout ce malheur. On a besoin de délivrance, besoin de pardon. Besoin de justice, besoin de délivrance. Nous avons besoin, dit la Bible, résume ça en un mot, nous avons besoin de rédemption. Nous avons besoin de rédemption. Nous avons besoin de Jésus. Le pardon, Dieu va le donner par grâce pure. À cause de Jésus, le pardon est offert gratuitement. La justice. Jésus va prendre sur lui l'exécution de la peine. C'est lui qui va recevoir le châtiment, le juste châtiment, qui accomplit la justice de Dieu comme la nôtre. Et la délivrance du péché, Jésus donne le Saint-Esprit qui va prendre en charge cela. L'Esprit Saint va nous conduire vers la délivrance du péché. L'Évangile est devant nous à ce stade des Écritures. Et on va poursuivre, bien sûr, une prochaine fois. Il y a tout un passage où on va parler de la magnifique justification par la foi. Ensuite, ce sera le thème de quitter l'empire du péché, cet empire qui domine tout, sortir de là. Ensuite, vers la gloire, conduit par l'Esprit. Et pour terminer, l'assurance du salut. Alors, j'ai prévu maintenant un chant qui est une prière et qui est un encouragement à se tourner vers Jésus.
Sans rappel d'amour. Seigneur, merci pour ton évangile. Merci parce qu'elle présente le problème avant de présenter la solution. Aide nous à bien comprendre le problème pour bien saisir la solution. Aide nous à bien saisir ce que tu te présentes à nous. Tu nous aimes. Père, tu nous as créés. Et tu veux le meilleur pour nous. La meilleure des choses. Merci pour ta parole qui nous montre tout cela, qui nous appelle à toi, qui nous appelle par notre nom. Et merci Seigneur, parce que il ne tient qu'à nous de répondre. Et nous voulons te dire oui, Seigneur Jésus. D'accord. D'accord. Je viens. Je viens à toi. Dans le nom de Jésus. Amen.